Vous écoutez
RMC.
RMC.
6h-7h.
Votre jardin. François Sorel.
Patrick Mulan.
Il est 6h09 et un grand bonjour à vous toutes et à vous tous. Merci d'être là, fidèle au poste, en ce 17 octobre 2020. 6h-10h, c'est votre week-end des experts. J'espère que vous allez bien. En tout cas, bien évidemment, je suis ravi de vous accompagner en ce samedi, bien sûr, avec la vie numérique tout à l'heure, Raphaël Grabli. On retrouvera aussi, bien sûr, Christian Ricca qui sera là pour la forme, la santé. La maison avec Christian PC tout à l'heure, 7-8. Et pour débuter, c'est le jardin, vous le savez, entre 6h et 7h avec Patrick Mulan. Et puis demain dimanche, 3h d'auto avec Jean-Luc Moreau. Mais on commence donc par se mettre au vert. Et le vert, vous le savez, c'est Miu Miu. Bonjour Patrick.
Bonjour François, bonjour à tous. Très 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 bienvenue au jardin qui commence à s'endormir lentement.
Écoutez, oui. Moi j'ai mon comment il s'appelle
déjà. Érable.
Mon érable du Japon qui commence vraiment à rougir là.
Oui, alors les érables du Japon sont très précoces. Moi je regarde un petit peu sur l'ensemble, ça sera comme tous les ans, c'est plutôt novembre en fait, les belles couleurs. Alors là on a eu du froid,
mais là il est d'un coup en allez, quelques jours, il est passé du vert au rouge.
Bah, c'est fou. C'est-à-dire que je viens de vous dire on a eu du froid.
C'est ça.
Et donc ça suffit pour effectivement entraîner tout le processus de changement de couleur. Oui. Je vous rappelle que le changement de couleur sert aux plantes à capitaliser sur tous les éléments nutritifs qu'il y avait dans les feuilles et qui reviennent vers les tiges pour protéger les plantes pendant l'hiver. En fait, c'est une sorte de réserve.
De réserve, oui. C'est encore une fois merveilleusement bien fait tout ça. Alors au menu de 7 heures dédiées au jardin, on va retrouver vos questions bien sûr dans quelques minutes. Vos questions jardin, profitez-en dès maintenant, hein. Patrick Mulan est là pour ça. Il est disponible pour vos questions. 32-16, l'appli RMC Direct Studio. Tiens, comment se passe l'automne dans votre jardin, sur votre terrasse, sur votre balcon? Dites-le nous. 32-16 ou bien l'appli RMC Direct Studio. On est connecté sur Direct Studio et on voit vos messages arriver. Et si vous nous joignez via Direct Studio, n'hésitez pas à nous laisser votre message, bien évidemment. Tout à l'heure, on va parler de l'ail. Tiens, c'est le bon moment pour les planter, les os.
Alors les os, parce qu'on va parler de l'ail comestible et puis des os ou des ails décoratifs, parce qu'en fait ce sont les mêmes plantes, enfin du moins le même genre, et c'est vrai que c'est le moment.
Vos coups de cœur aussi de cette semaine, mon cher Patrick, on regardera ça et on écoutera ça tout à l'heure en fin d'émission. Et puis donc je vous le rappelle, dès maintenant vous pouvez nous appeler 3216 ou via l'appli RMC Direct Studio. On est en direct bien sûr, 6h11. C'est parti pour votre week-end des experts et on attaque avec le conseil de Miu Miu.
Je vais vous donner un dernier conseil avant que vous partiez.
RMC,
l'astuce jardin de Miu Miu.
J'attends ton conseil.
Et pour débuter donc ce rendez-vous jardin, ça va être l'entretien de la pelouse en automne. Et c'est vrai Patrick qu'avec la baisse sensible des températures, vous en parliez il y a un instant, et puis on retrouvera la météo du jardinier tout à l'heure. Est-ce que vous allez nous confirmer tout ça pour les jours qui viennent? C'est vrai qu'avec cette baisse sensible des températures qu'on a constatée, faut-il encore tondre le gazon?
Alors on est arrivé à la période de la dernière tonte, on va dire, parce que pendant l'hiver, il va falloir que le gazon quand même soit laissé tranquille. De toute façon, vous constaterez que la pousse est quasiment nulle. Donc, septembre, qui est généralement le réveil de la pelouse, parce que à la fois les températures sont moins caniculaires et puis heureusement les pluies reviennent, oui. Et donc les paillassons de l'été se retransforment en pelouse, eh bien permet la croissance assez forte de la pelouse. Donc on tond beaucoup en septembre, et puis arrive maintenant ces fraîcheurs, et donc on arrive pour toutes les régions septentrionales, on va dire tout ce qui est nord de la Loire, à la dernière tonte. En revanche, dans le midi, il est possible, voire probable, qu'au cours de l'hiver, vous ayez une tonte à faire.
D'accord.
Surtout si la pelouse n'est pas totalement détrempée. Parce que ça, ce qu'il faut voir aussi, c'est que tondre quand la pelouse est gorgée d'eau, c'est pas toujours très très bien, parce que vous avez les roues de la tondeuse qui vont s'imprimer dans le sol. Et donc, au lieu d'avoir un gazon très régulier, vous avez une sorte de tonde ondulée après.
C'est terrible. Est-ce qu'il faut tondre, Patrick, assez ras en ce moment ou pas?
Ben non, parce que on va dire que pour la dernière tonte, on va couper entre 5 et 7 cm de hauteur. C'est très très bien que le gazon ne soit pas trop ras pendant l'hiver, parce que en fait, les brins se protègent un peu les uns les autres, oui. Et surtout, la hauteur des brins va protéger la souche. Alors, bien sûr, la plupart des graminées du gazon sont des plantes totalement rustiques, mais on fait plutôt ça. Et puis, si vous tondez trop ras, encore une fois, si vous marchez dessus pendant l'hiver, vous risquez d'avoir vos pas qui s'imprègnent.
Oui, ça c'est fait.
Ou s'imprime.
S'imprime les deux, voilà. Finalement.
Un petit peu mieux. Voilà. Alors, d'une manière générale, il y a un bon conseil pratique pour la tonte de la pelouse. Ne coupez jamais plus d'un tiers de la hauteur de l'herbe au moment où vous passez la tondeuse.
Patrick, est-ce qu'on doit ramasser l'herbe qu'on coupe, ou alors est-ce qu'on utilise plutôt le fameux système mulching ?
Alors, vous savez qu'en français, le mulching, ça s'appelle l'herbicyclage. Personne ne le sait, mais il y a un mot.
L'herbicyclage.
Mais en même temps, c'est vrai.
Oui,
c'est le recyclage de l'herbe. Et c'est effectivement, en ce moment, la bonne période. D'abord parce que l'herbe que vous allez couper est humide, et donc elle se dégradera d'autant plus facilement. Et c'est bien de rapporter des éléments nutritifs. En ce moment, c'est très approprié pour la saison. Au printemps, lorsque l'herbe est très drue, très dense, on ramasse. En revanche, bon, en été, on mulche parce que la pousse n'est pas très importante. Et en cette saison, on mulche aussi pour pouvoir réintégrer donc l'herbe à l'intérieur même de la pelouse.
Alors, dans les régions où les sols sont secs, c'est ce que vous disiez un petit peu tout à l'heure, hein, est-ce qu'il faut arroser et quand ?
Alors, il faut savoir que globalement, une pelouse en cette saison, ça a besoin d'environ 5 litres d'eau par mètre carré par semaine. Dans beaucoup de régions, on les a eus, mais il y avait un déficit. Donc, s'il ne pleut pas, et je crois que c'est un petit peu ce qui nous attend pour une partie de la semaine, on peut arroser une fois si nécessaire, notamment si vous avez des sols qui sont très très drainants, dans lesquels évidemment l'eau ne se retient pas. Alors, on a assisté à des fortes baisses de température, on verra tout à l'heure avec la météo du jardinier que ça va quand même remonter. Malgré tout, en cette saison, il est préférable d'arroser en journée, on va dire vers entre 11h et 15h, plutôt que le soir comme on le faisait pendant la période chaude, parce que là, l'évaporation est relativement faible. Et puis, les températures baissent très très rapidement en soirée, font que, encore une fois, la pelouse, c'est rustique, mais l'histoire de la douche écossaise, vous voyez, oui, c'est pas très apprécié.
Voilà, il faut pas exagérer. Tiens, vous avez des questions sur les pelouses, puisqu'on en parle avec Patrick. Profitez-en, appelez-nous. 3216, l'appli RMC Direct Studio pour nous joindre sur votre smartphone. On peut vous écouter avec votre question dans les minutes qui viennent. Hein. Profitez-en, donc 3216, Amina vous attend au standard. Est-ce qu'on doit nourrir la pelouse avec un engrais à cette période de l'année ?
Alors, on pourrait croire que non. Mais en fait, oui, et surtout avec un engrais qui ne contient pas d'azote. Je rappelle que l'azote, qui est la lettre N sur les paquets d'engrais, est l'élément moteur de la croissance. En ce moment, on n'a pas du tout envie que la pelouse se remette à pousser comme une folle, donc c'est pas utile d'avoir de l'azote. En revanche, le phosphore et la potasse, donc le potassium, qui sont les éléments majeurs des engrais classiques, qu'on appelle les engrais complets, eux, ils vont jouer un rôle très important, à la fois sur le système racinaire, donc renforcer l'ancrage des brins de gazon dans le sol, et leur permettre à la fois de mieux supporter les agressions de la température froide de l'hiver, mais également les piétinements. Donc c'est un apport important que l'on fait en automne, et il existe d'ailleurs dans le commerce, vous en trouverez dans les jardineries, des engrais spécifique gazon automne.
D'accord. On va parler de la mousse maintenant qu'il y a dans le gazon et que vous avez peut-être chez vous. Est-ce qu'on peut lutter contre cette mousse, et puis est-ce que c'est le bon moment, tiens, de s'y attaquer ?
Alors, oui, c'est de plus en plus difficile de lutter contre la mousse existante, puisque le sulfate de fer a disparu des rayons de jardinerie, comme beaucoup de produits d'origine chimique. Donc, le travail que l'on doit faire, c'est de donner les conditions écologiques favorables à la pousse du gazon à la place de la pousse de la mousse. Alors, la mousse, faut savoir que ça pousse lorsque il fait très humide. Ça a besoin d'humidité. Mmh. Et donc, dans les sols compactés, dans les sols qui sont pas bien drainés. Donc ça, par exemple, faire une aération de la pelouse en cette saison, faire aussi une scarification, c'est très très bien. N'oubliez pas aussi que, à l'ombre, vous avez beaucoup plus de chances ou de risques d'avoir de la mousse. Si vous tondez trop court, également, si le sol est trop acide. Donc on va apporter des engrais ou des amendements à base de calcaire, de façon à alcaliniser le sol pour éviter l'apparition de la mousse. Attention, contrairement à ce que certains ont tendance à communiquer, on va dire, le calcaire ne détruit pas la mousse. Donc si vous avez plein de mousse, vous mettez ce type d'engrais-là, ça ne fait rien. En revanche, si vous n'avez pas de mousse, le fait de l'utiliser va permettre d'éviter l'apparition de cette mousse. Et puis, attention de ne pas avoir des engrais avec, encore une fois, trop d'azote, et notamment trop d'azote nitrique, qui est un élément aussi qui favorise la présence de la mousse. Et donc, plus votre sol est équilibré, plus votre sol est vivant, et moins il y a de risques à ce niveau-là.
Patrick, on a Christophe qui est boulanger, qui est un fidèle auditeur d'RMC, qui nous pose une question via Direct Studio. Il nous dit bonjour et il nous remercie pour tous vos conseils. Est-ce que c'est la bonne période pour semer de la pelouse?
Alors maintenant, ça devient un peu tard, parce que on ne sait pas quel va être le temps qu'il va y avoir dans les prochaines semaines. Parce que sachez une chose, je rappelle, une pelouse, ou un gazon plutôt, c'est un mélange de différentes graminées. Mmh. Certaines, comme le raigras anglais, lèvent assez vite, en 4 à 5 jours, donc ça pourrait être tout à fait valable de semer en cette saison, parce qu'il ne fait encore pas trop froid, mais vous avez aussi l'herbe la plus fine, celle qui est la plus dense, qu'on retrouve souvent dans les golfs, par exemple, qui s'appelle la grostide, et qu'il y a toujours dans les beaux gazons, eh bien, elle met 21 jours à lever. Donc, vous n'avez pas du tout de visibilité sur les 21 jours qui viennent.
Ça fait 3 semaines, c'est beaucoup.
Trois semaines, en ce moment, ça nous amène quand même début novembre, il y a un risque de gel. Donc, que votre pelouse ne soit pas suffisamment bien installée avant les premiers froids. Donc, moi, je le déconseille, excepté, bien sûr, dans les régions littorales où, de toute façon, il ne fera pas froid. Et là, vous pouvez le faire, en ce moment, sans problème.
Si des champignons se développent sur la pelouse, Patrick, qu'est-ce que je dois faire?
Alors, on ne peut pas faire grand-chose quand ils sont là. Simplement, ça vous alerte sur une surprésence, si je puis dire, de matière organique. Parce que les champignons, qui, je le rappelle, ne sont pas des plantes ni des animaux, mais un règne tout à fait à part, sont des saprophytes. Que veut dire saprophyte? Ça veut dire qu'ils se nourrissent de matière organique en décomposition. Donc, ça veut dire aussi que vous avez certainement trop terrotté, apporté vraiment trop d'amendements organiques, etc. Donc, vous pouvez simplement passer la tondeuse. Sachez qu'il ne faut pas avoir beaucoup de crainte sur la présence de ces champignons par rapport soit à votre chien, soit encore plus à vos enfants. Rares, mais très très rares, sont les champignons des pelouses qui sont toxiques. Il y en a même d'ailleurs qui sont très bons, puisque la garrigue champêtre, qui est tout simplement le champignon de Paris sous forme sauvage, est tout à fait comestible, lui. Donc voilà, c'est simplement une alerte, et ça veut souvent dire que vous avez aussi une humidité constante, et donc peut-être aussi bientôt de la mousse dans votre gazon.
Alors, si ma pelouse est encore jaune, malgré les pluies de ces derniers temps, qu'est-ce qu'il faut que je fasse?
Alors, l'idéal, ça serait de passer un aérateur. Alors, on trouve des rouleaux avec des pointes. Il y a aussi des aérateurs mécaniques, enfin un moteur que vous pouvez louer, par exemple, ça ne vaut pas le coup, je pense, au niveau amateur, d'en acheter un, qui vont faire des carottes de terre et qui vont permettre de décompacter, et notamment, si vraiment c'est compact, après avoir carotté, donc après avoir aéré, vous pouvez faire un sablage, ça peut être quand même très très bien. Alors, il faut aussi savoir que si vous avez des taches jaunes et brunes, souvent, avec parfois un peu de moisissure blanche, eh bien, ça veut dire que vous avez une maladie du gazon qui s'appelle la fusariose, même la fusariose froide, et malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Alors attention aussi, quand vous constatez des taches circulaires, un petit peu avec le pourtour vers, un peu plus sombre, ben souvent c'est que le chien, le chat ou même un renard ont fait leurs petits besoins à cet endroit.
Voilà pour la pelouse, 6h24 sur RMC. Pauline est avec nous au 32-16. Patrick, bonjour. Hello, Pauline.
C'est Pauline.
Bonjour.
Bonjour Pauline. Bonjour Pauline, bienvenue sur RMC.
Donc nous aimerions planter des fleurs vivaces de plusieurs couleurs, enfin assez petites, 20-25 cm, sur un massif qui est exposé au soleil et nous ne savons pas quoi prendre.
Oh,
parce que nous aimerions
alors
que ces fleurs résistent à la chaleur.
Il y a énormément de choses. Il y a énormément de plantes qui sont dans ce cas-là. Bon, par exemple, on va dire le liseron de Mauritanie. Alors, vous habitez dans quelle région, tiens ?
On habite en Picardie.
Ah oui, donc le liseron de Mauritanie en Picardie, ça a été un peu limite parce que c'est un peu frileux. Bon, par exemple, vous avez Erigeron carvinskianus. Alors, le problème, c'est que les noms, c'est pas moi qui les invente, c'est un peu compliqué. Bon, vous avez, pour la Picardie, prenez aussi des choses comme des campanules. Il y a les campanules rampantes qui sont très très bien. Les équerres, ça c'est des plantes qui sont en vente en ce moment, avec des feuillages de toutes les couleurs qui sont vraiment très spectaculaires. C'est pas des fleurs, mais c'est des vivaces qui sont persistantes, qui sont très très bien. Vous pouvez mettre des aubriettes. Les aubriettes, ce sont des petits tapis qui fleurissent bleu, rose ou violacé selon les variétés au printemps. Vous avez la corbeille d'or, alors comme son nom l'indique, ça fait des fleurs jaunes. Donc ça, il y a énormément de plantes. Allez dans une jardinerie, en ce moment c'est la bonne période pour planter les vivaces, et regardez les hauteurs qu'il y a sur les étiquettes, elles sont indiquées. Donc vous allez avoir, alors il y a même des jardineries qui présentent très très bien les choses avec, on va dire, une progression dans la présentation. Vous avez les plus petites devant, les moyennes derrière, et puis les grandes encore plus derrière. Donc ça, c'est aussi des choses pour vous aider dans votre choix. Mais vraiment, il y a énormément de choses qui existent pour faire cela. Bon, par exemple, moi j'aime bien aussi la lysimaque dorée. La lysimaque dorée, c'est une plante alors très 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 rampante qui fait un feuillage doré, comme son nom l'indique, plus des petites fleurs jaunes. Donc vous avez les thyms aussi, tout ce qui est, par exemple le thym citron, c'est un thym qui s'étale bien et qui fait des choses qui sont très intéressantes. Donc voilà, il y a vraiment pas de problème, ça vous allez trouver un maximum de plantes. Alors mon conseil, ça sera quand même de ne pas planter un godet de chaque, les uns à côté des autres, parce que ça vous donnera pas suffisamment d'effet. Faut au moins planter 5 plants, voire 10, pour faire des taches, de manière à ce que, dans le massif, vous ayez un effet visuel. Sinon, vous allez saupoudrer, et ça sera pas joli du tout. Et puis, n'oubliez pas, c'est le moment aussi de planter les bulbes. Donc, si vous associez, par exemple, quelques, des petits narcisses, des choses comme ça, avec vos vivaces, alors ça sera vraiment de premier choix.
Patrick, on va revenir dans un instant. Est-ce que vous êtes prêt pour l'ail ?
Oh oui.
Eh bien alors, on y va.
On va pouvoir manger en ce moment un peu tôt quand même.
Oui, ça fait un peu tôt, c'est sûr. Mais malgré tout, c'est un sujet intéressant. On en parle dans un instant.
RMC.
6h-7h.
Quand vous débarquez à Marseille par la mer ou par la terre, vous ne vous écriez pas « Ah, mince que c'est beau !» Non. La première parole que vous dites, c'est « Ah, ça sent l'ail !»
François Sorel.
C'est relevé au jus d'ail, parce que l'échalote tout seul, ça serait trop fade.
Un petit florilège qu'on doit à Kevin. Et oui, pardon. On est bon là ? D'accord. Bah écoutez là, je sais pas si vous aimez l'ail, mais en tout cas, c'est moi j'aime bien.
Bien sûr.
Après c'est vrai que quand on vit en société, ça peut être un peu bizarre quoi.
Enfin 6h31, c'est quand même un peu limite.
C'est un peu tôt. Mais vous avez décidé de parler de l'ail ce matin, Patrick. Je pense que vous faites bien parce qu'on va faire donc connaissance avec l'ail, ses vertus, sa culture, et puis aussi les alliums, ces fleurs très décoratives. Mais pour débuter peut-être, Patrick, pourquoi vouloir à la fois nous parler de l'ail et des alliums ?
Alors d'abord parce que c'est une bonne période pour la plantation, mais aussi surtout parce que aussi bien l'ail comestible que les alliums sont des plantes identiques, c'est-à-dire que ce sont toutes du genre allium. Allium sativum, c'est l'ail que l'on consomme. Et ensuite, il y a environ 70 espèces d'ail de toutes sortes, dont certains sont décoratifs. Alors, ce sont des plantes bulbeuses, vraiment magnifiques, et la plantation des bulbes, je disais tout à l'heure, c'est maintenant.
Allez, un peu de botanique maintenant, des mots de botanique, Patrick, je sais que vous aimez ça.
Alors, donc je vous disais Allium sativum pour l'ail que l'on consomme. Alors, je vous ai dit 70, j'ai oublié un zéro. On est presque à 700 espèces, hein, oui. Sur les vives. La plupart du temps, ce sont des vivaces. Il y en a quelques-uns qui sont bisannuels. Et alors, il y a une grande diversité d'aspects, puisque ça part d'une plante, pour certaines, qui font tout juste 10 cm de hauteur, et d'autres qui atteignent jusqu'à 1,50 m. Alors, dans le genre Allium, on va trouver l'oignon, la ciboulette, le poireau, l'échalote, des plantes que l'on consomme couramment. Mmh. Donc, toutes ces plantes font partie d'une famille qui s'appelle les Amaryllidacées. Ils sont originaires d'Europe. Par exemple, on a un ail sauvage chez nous qui est de plus en plus apprécié en cuisine, qui s'appelle l'ail des ours, Allium ursinum, avec un goût vraiment très, très doux, très léger. On en trouve en Afrique du Nord, on en trouve aussi en Amérique du Nord.
Alors, on va parler d'abord de l'ail comestible, avec peut-être une rapide présentation de la plante, non ?
Alors, c'est une plante qui est cultivée chez nous depuis très très longtemps, dans la mesure où, de toute façon, elle est originaire d'Europe du Sud, et que, déjà, dans l'Antiquité, on la cultivait. On sait même qu'on a retrouvé des éléments de culture, oui, il y a 6000 ans. Donc, on était déjà sur une période de culture, et c'est toujours une plante très facile à cultiver. Alors j'aime bien aussi un petit proverbe indien, parce qu'en fait, pratiquement aujourd'hui, dans toutes les gastronomies, on met de l'ail. Ils disent, même lavé à l'eau de rose, l'ail ne perd pas son odeur.
Quel est l'intérêt de planter de l'ail en ce moment, Patrick ? Alors,
voilà, ça c'est très très bien, parce que si vous plantez en ce moment, vous allez avoir un moment pendant l'hiver où la plante va commencer à bien développer ses racines. Parfois, s'il fait doux, elle va développer aussi quelques feuilles. Ça veut dire donc qu'elle sera extrêmement précoce dans son développement. Alors bien entendu, on plante de l'ail en cette saison uniquement dans les régions dont l'hiver est relativement doux. Et puis on va plutôt planter de l'ail rose, parce que vous avez en ail comestible, on a deux catégories, l'ail blanc et l'ail rose. L'ail rose est plus rustique et donc on a tendance à le planter plutôt en ce moment, et l'ail blanc plutôt au début du printemps. Et vous aurez aussi, avec une plantation d'ail en ce moment, une récolte qui généralement sera bien supérieure à celle de l'ail qui est planté au printemps. Alors attention, dernier petit conseil pour l'ail, ne plantez pas dans des sols humides, comme toutes les plantes bulbeuses, ça déteste absolument l'humidité stagnante qui fait pourrir les bulbes.
D'accord. Est-ce qu'on peut planter des gousses d'ail de consommation, Patrick ?
Alors ça, François, c'est une très très bonne question, parce que effectivement, c'est tellement facile que vous achetez une grosse tête d'ail et puis les petits cailleux qu'on appelle les gousses qui sont alentours, si vous les plantez, pas de problème, ça va vous donner... Ah oui, oui, puis ça va donner une plante. Le problème, c'est que c'est la meilleure façon de transmettre des maladies à virus. Alors, on va être entre nous, je ne devrais pas trop le dire, mais je vais le dire quand même. Si vous le faites une fois, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que vous achetez des beaux ails en ce moment, vous prenez les cailleux, vous les plantez.
Quand vous dites les cailloux, qu'est-ce qu'on prend ? On prend les gousses ?
Oui, c'est la gousse et les cailloux, c'est la même chose, mais le caillou, c'est le mot botanique, simplement.
Donc je prends ma gousse.
Vous prenez les petites gousses, vous les plantez. Là, vous allez avoir une belle récolte. En revanche...
Combien de temps après ? Au printemps ?
Alors, plutôt vers le mois de juin-juillet, hein, quand même.
Juin-juillet.
Ouais, c'est relativement long. Alors, c'est facile à voir le moment de la récolte, c'est que les feuilles commencent à jaunir.
D'accord.
La plante est raplapla. Et d'ailleurs, généralement, on casse les feuilles, on les tortille sur le sol de manière à ce que un peu comme à l'automne maintenant, c'est-à-dire que leurs éléments nutritifs reviennent vers le bulbe. Bon. Donc. Mais ce qui est important dans ce que je voulais vous dire, c'est que la récolte que vous ferez l'année prochaine des bulbes plantés à partir d'ail de consommation ne doivent plus être réutilisés pour une nouvelle culture. Vous les consommez, vous les mangez, mais là, à ce moment-là, vous achèterez
de nouveaux ail.
Alors, soit de nouvelles gousses d'ail, soit, ce qui est beaucoup mieux, c'est de l'ail certifié, c'est-à-dire du plant d'ail. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a des contrôles permanents pour savoir à la fois, bon, si la variété est bonne, ce qui est quand même important, mais c'est pas capital, mais surtout, s'ils sont totalement indemnes de maladies, et notamment de maladies à virus, qui ont tendance à créer des dégénérescences. Et il faut le savoir qu'il y a une trentaine d'années, on était arrivé à une telle situation, justement, parce que tout le monde réutilisait ça comme cela, que toutes les populations d'ail étaient totalement virosées et que les productions étaient de moins en moins intéressantes. Il a fallu un travail de l'INRA de resélection, de vraiment passion, de création aussi de nouvelles variétés pour qu'on se remette dans des conditions sanitaires valables.
Quelles sont les meilleures variétés qu'on peut planter dès maintenant, Patrick ?
Alors, il y en a
quelques-unes. Hein.
Bon, par exemple, vous avez Germidour, vous avez Messidrome, vous avez Thermidrome. Ça, c'est des variétés qui ont été créées par l'INRA. Bon, aujourd'hui, on cultive aussi beaucoup Sprint, qui a un ail violet, qui est très très précoce. On cultive aussi Jolimont, c'est joli, hein, mais voilà, avec un peu jaunâtre. Hein, voilà, Gardos, par exemple, qui est rose, Christo, qui est rose, Arnaud, qui est rose. Voilà, il y en a énormément. Bon, franchement, vous voulez mon avis ? Vous achetez dans la jardinerie le premier ail que vous pouvez trouver, et vous allez voir, ça donne des bons résultats. Moi, j'ai jamais réussi, enfin, entre l'ail blanc et l'ail rose, oui, mais entre deux variétés d'ail rose, voir les différences, là, faut être subtil. Quand même.
Tiens, on a eu un coup de fil, là, vous avez entendu, hein, c'était, je sais pas qui.
C'était peut-être. Direct studio.
Ouais. Oui,
direct sur le studio.
Oui, quelqu'un qui avait une question sur l'ail, mais qui a raccroché, justement. Dans quel type de terre faut-il cultiver l'ail, tiens, Patrick ?
Alors, je disais tout à l'heure que, bien sûr, pas d'humidité, donc des terrains légers, meubles, et surtout ne comportant pas de fumure non décomposée. On ne met surtout pas de fumier avec une plantation d'ail, ou alors du fumier qui a au moins un an de compostage, de façon à ce que l'ail, à ce moment-là, se retrouve dans des milieux favorables, mais tant qu'il y a des risques de fermentation, jamais. C'est valable, tout cela, pour l'ensemble des meubles. Les tulipes, les jacinthes, les narcisses, les crocus qu'on plante en ce moment, pas de fumure organique fraîche.
Patrick, alors, j'imagine que vous devez être quand même être au courant de la particularité de l'ail. Il paraît que c'est excellent pour la santé. Hein.
Oui, alors là,
ça a des vertus qui sont reconnues maintenant. Hein.
Alors, c'est surtout extrêmement intéressant au niveau antiseptique. C'est un antiseptique naturel.
Ça désinfecte.
Alors des intestins surtout. Ah oui. Quand vous mangez de l'ail, eh bien, vous avez des éléments, on va dire, néfastes dans l'intestin qui vont être détruits par cela. Et surtout, ça vous rééquilibre bien la flore intestinale. Après, il y a un côté, on va dire, stimulant, un côté apéritif. Vous pouvez aussi, sur des petites plaies, vous passer
un peu d'ail.
De l'ail. Ça bien. Peut ah oui. aider bah, justement
à la cicatrisation.
Non, ça va éviter que ça s'infecte.
Ah oui.
Surtout. Hein. Donc voilà. Bon, après, il faudrait demander à notre cher docteur Rekia tout ce qu'il connaît sur l'ail au niveau nutritif et médicinal. Moi, je ne veux pas trop rentrer là-dedans.
Non, c'est clair. C'est clair. Si on parlait des alliums, tiens, pour terminer, Patrick, il nous reste quelques secondes. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les alliums ? Peut-être l'intérêt décoratif ?
Bah écoutez, c'est une des plantes les plus spectaculaires dans le jardin, avec l'intérêt. C'est qu'on les plante en même temps que les tulipes, mais ils vont fleurir après. Donc ça vous permet d'avoir des floraisons printanières qui s'étalent un peu plus. Ça fait des grosses belles moules. Alors, moi j'aime bien Globemaster, j'aime bien Aflatunacée, j'aime bien des Purple Sensation, qui sont des vraies, vraies belles boules violettes, comme une fleur d'ail, j'allais dire, évidemment, mais plus tonique. Alors ça, comme je disais tout à l'heure sur la plantation, quand j'ai parlé des plantes vivaces à notre interlocutrice, c'est de mettre vraiment des groupes. Alors attention, c'est vrai que c'est assez cher, les bulbes d'ail, mais ils ont un avantage, ils se naturalisent bien. C'est-à-dire que vous n'allez pas être obligé, comme on le fait par exemple avec les tulipes, de les retirer du sol chaque année ou d'avoir une dégénérescence. Le seul bémol, c'est que, bon alors, l'avantage de l'ail, c'est que c'est quand même avec des goûts forts, et tous les rongeurs ne l'aiment pas, mais quand ils les aiment, ils peuvent faire aussi quand même quelques dégâts, donc ça peut disparaître petit à petit. Mais si ça marche bien, vous pouvez avoir à partir, mettons, d'une dizaine de bulbes, dans les années qui viennent, ben vraiment une très 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 belle touffe, et ça, je peux vous dire, c'est très spectaculaire, Allium giganteum, par exemple. Alors, vous en avez aussi des tout à fait étonnants, comme Allium christophi, qui fait des choses très très fines. Bon, j'aime bien aussi Allium sphaérocéphalon, excusez-moi, Allium sphaérocéphalon, c'est l'ail du Caucase, hein. Et lui il est pourpre, il est très foncé, il est presque noir, et donc ça vous pouvez en mettre pas mal, de façon à mélanger par exemple avec des graminées, c'est absolument sublime, ça fleurit en juillet, il est beaucoup plus tardif que les autres fleurissent plutôt au mois de mai, ou fin mai, début juin pour la plupart, et puis il y en a un qui s'appelle pas Allium, mais qu'on appelle l'ail de Bulgarie, et il s'appelle Nectaros cordum. Alors celui-là, je peux vous garantir que c'est extrêmement bizarre, parce que en fait, les clochettes sont toutes désarticulées. Ça vous fait quelque chose d'assez ébouriffé. C'est à la fois vert, pourpre et blanc, et c'est vraiment une plante que vous pouvez mettre, on va dire, un petit groupe d'une dizaine, avec des lys par exemple, ou avec des arbustes, et ça fait vraiment quelque chose de très très beau.
Voilà, concernant les os. Parce qu'on a un auditeur qui nous dit attention, vous dites les ailes, mais c'est les os. Mais on peut dire les deux, en fait. Hein. Oui. C'est Fabrice qui nous envoyait un petit message sur Direct Studio.
D'ailleurs, les os, c'est un peu désuet.
C'est vrai.
Dans le langage.
C'est vrai. 6h43, Patrick, on revient dans un instant. Jean-Pierre sera avec nous. Il possède deux mûriers dans le bassin d'Arcachon. Il aimerait bien vous en parler. Et puis, on retrouvera la météo du jardinier dans un instant. Le 32-16, l'appli RMC Direct Studio. C'est votre jardin. On est là dans une minute. À tout de suite.
RMC jusqu'à 7h.
Votre jardin. RMC
jusqu'à 7h.
Votre jardin. François Sorel.
Patrick Mulan.
Voilà le dernier quart d'heure de votre rendez-vous jardin sur RMC avant de retrouver la maison tout à l'heure. Et Christian Pessé qui me rejoindra. Vous savez, Christian, chaque samedi entre 7h et 8h, on parlera de thermostat tout à l'heure, un thermostat performant pour bien réguler et programmer votre chauffage. Et puis on évoquera aussi le chauffage au bois et aux granules avec le dispositif, vous le savez, de soutien à la rénovation énergétique. Quelle réduction peut-on prétendre à avoir si on installe un nouveau chauffage? On fera le point donc tout à l'heure avec Christian. Mais d'ici là, donc, le jardin, la météo du jardinier dans un instant, mais auparavant, Jean-Pierre nous attend au 32-16.
Oui, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Bienvenue.
Bonjour François, bonjour Patrick. Voilà, moi je vous appelle, comme l'a dit François, je possède deux mûriers platanes depuis une vingtaine d'années. Ces mûriers platanes se sont développés en diamètre de tronc et en amplitude de branchage, semble-t-il, correctement, sauf qu'ils n'ont pas beaucoup progressé en hauteur, mais ça c'est peut-être normal. Mais la question que je voulais vous poser, ça concerne la taille des branches. Tous les ans, à la première chute des feuilles, je coupe les branches au ras du tronc. Est-ce que c'est la bonne méthode?
En général, c'est ce qu'on fait, oui. Alors bien sûr, ce genre de taille va réduire la croissance, et notamment, vous allez éliminer les pousses qui pourraient se développer verticalement. Mais sur un mûrier platane, généralement, ce qu'on cherche, c'est avoir une sorte de parasol. Et donc, dans ces cas-là, la taille, elle est nécessaire pour, justement, éliminer les pousses qui sont mal placées et régénérer en permanence de la végétation. C'est un autre avantage, la taille régulière des mûriers platanes, c'est que ça les empêche généralement, ou du moins ça réduit la floraison et donc la formation des fruits qui peuvent être extrêmement gênants, surtout si on met un salon de jardin sous le mûrier platane, parce que les fruits sont très salissants. Mais vous faites parfaitement. Normalement, on doit les tailler très très régulièrement. Alors bien sûr, quand on a affaire à un arbre adulte, quand on a une jeune plantation, on fait une taille plus de formation avec un équilibrage et on laisse quand même la plante se développer. Mais une fois que l'arbre est adulte, oui, ce que vous faites, c'est parfaitement correct. Il n'y a rien à dire.
D'accord. Je suis rassuré. Merci beaucoup.
Bonne journée.
Jean-Pierre, merci à vous et à bientôt en Gironde. Profitez bien. Il est quasiment 7h-10. Il est temps de retrouver la météo du jardinier en ce 17 octobre 2020. Patrick, vous avez jeté un œil sur les cartes de Météo France. Qu'est-ce qui nous attend cette semaine? Est-ce qu'on rentre vraiment dans l'automne, là?
Alors demain, oui. C'est-à-dire que demain, on a toujours des vents du nord qui sont assez faibles. Hein, oui. Mais l'atmosphère est fraîche puisqu'on annonce un 1 degré sous-abri à Aurillac, un 2 à 3 en Champagne et Alsace,
ah oui,
un seulement 8 à Marseille. Donc, vous voyez, au petit matin. Bon, après, ça sera une journée sèche. mais avec des maximales entre 11 et 18 degrés, une moyenne de 14 degrés. Donc c'est un temps tout à fait valable pour se réchauffer un peu au jardin. Mmh. Donc en ce moment, il y a pas mal de plantations. On parlait de l'ail, mais on peut faire aussi l'échalote. On peut aussi planter tous les végétaux décoratifs de l'automne, les pensées, les chrysanthèmes, les cyclamens, les primes verts. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à planter aussi. Donc les bulbes à floraison printanière, les conifères, les rhododendrons, c'est vraiment le moment, ainsi que les arbustes à feuillage persistant. Donc faites ça à la fois dimanche et lundi, on va dire, parce qu'on aura à peu près les mêmes conditions, avec déjà une tendance à une légère élévation de la température. Et puis, complètement bouleversement mardi, avec des entrées pluvieuses par l'ouest, et tout d'un coup, les minimales qui vont... mais s'élever énormément, puisqu'on aura 8 degrés en Alsace, ça sera le minimum du pays. Alors, je ne parle pas des hauteurs, bien entendu, hein, mais avec des pluies, cette fois, un peu éparses dans toutes les régions.
La douceur revient, en fait.
Et on aura du 14 à 20 degrés. 14, ça sera le moins, et 20 degrés, vous aurez ça dans le midi, presque partout. Moyenne 16-17, donc on va remonter vraiment. Mercredi, ça sera pareil. Jeudi, ça sera pareil. Et puis, on reviendra un peu plus en fraîcheur vers vendredi, avec de nouveau des températures qui redescendront sous les 10 degrés au petit matin. Mais, et avec moins de pluie. Donc, on va dire que mardi, mercredi, jeudi, on va plutôt regarder le jardin que d'y agir, parce que ça sera vraiment de la pluie un petit peu partout. Mais, à partir de vendredi, on reprend le jardinage.
Allez. Voilà.
Alors, c'est la période aussi des tailles, hein, par exemple, pour les framboisiers remontants, pour les noyer, pour restructurer un petit peu tout ça, les plantes grimpantes pour équilibrer la silhouette. Donc il y a quand même pas mal de choses à faire en cette saison. Et puis nettoyage, nettoyage. Attendez, hein, pour ramasser toutes les feuilles mortes quand même, qu'elles soient vraiment bien tombées, parce que sinon vous allez passer tout votre automne avec le balai à gazon.
Allez, on accueille Romain qui nous a appelé au 32-16. On parlait pelouse tout à l'heure, hein, Patrick, en introduction. Je crois que Romain a une question sur ce sujet. Bonjour Romain.
Oui, bonjour.
Bonjour Romain, bienvenue.
Merci. Écoutez, oui, je vous envoie cette question parce que j'habite un endroit où en fait j'ai beaucoup de gore comme terre, une terre très sableuse. Bon, assez mauvaise pour faire pousser de la pelouse, quoi. C'est trop drainant. Donc j'ai fait remplacer 20 cm par de la bonne terre de Limagne, bien noire, bien collante, et bien trop collante d'ailleurs, et en cette saison c'est une catastrophe, on en a 3 cm sous les chaussures dès qu'on rentre dedans, et je voulais savoir comment faire pour pouvoir me l'étaler plate correctement pour pouvoir semer, parce que du coup là c'est un champ de mine, quoi.
Bah, il faudrait déjà peut-être remélanger la terre que vous avez simplement mis en surface avec la terre d'origine très sableuse pour rééquilibrer, on va dire, la composition de votre sol.
D'accord.
Derrière ça, vous avez de toute façon les apports organiques qui vont aussi jouer un rôle de tampon en créant ce qu'on appelle le complexe argilo-humique, c'est-à-dire vous avez l'humus et l'argile qui s'associent, et donc au lieu d'avoir des colloïdales très compactes, eh bien vous avez quelque chose de plus aéré. Et puis derrière ça, vous pouvez aussi, si le sol à une réaction acide, ce qui est souvent le cas dans les sols siliceux, eh bien, d'avoir du chaulage qui décoagule l'argile. En faisant l'ensemble de ces éléments-là, et d'ailleurs pour le gazon, c'est pas bien d'avoir un sol acide, hein, il faut mieux avoir un sol très légèrement alcalin, pH autour de 7,5 environ. Donc, pour pouvoir bien retravailler ce sol de façon à ce qu'il soit, eh bien, quand même un peu poreux, parce que si vous laissez uniquement cette couche très compacte en surface, alors ça, je vous garantis que vous allez finir par avoir de la mousse, comme on disait tout à l'heure au début de cette émission.
Oui, donc c'est-à-dire que si je passe la fraise pour pouvoir un peu récupérer de la terre dessous,
bien sûr,
la mélanger, et bien ensuite sûr, un traitement à la chaux, vous dites, c'est ça?
Bah, oui, vous faites un chaulage, et puis vous pouvez aussi apporter du fumier décomposé, tout un compost bien, bien mûr, mélangé avec la motobineuse, et après, le chaulage, c'est de l'ordre de 2 poignées mètre carré.
D'accord, ok.
Voilà Romain.
Eh bien, merci beaucoup.
Bonne journée, bon week-end,
bonne
Romain.
Journée. Merci Romain.
Eh bien voilà, on a commencé par la pelouse, on termine par la pelouse. Tiens, il y a aussi Jean-Marc qui nous dit, peut-on poser du gazon en rouleau? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien ça?
Oui, mais il faut savoir que du gazon en rouleau, c'est du gazon normal. C'est-à-dire que ça vous n'empêche pas de préparer très soigneusement votre sol, parce que le gazon en rouleau, lui, va couvrir tout. Alors ça, un énorme avantage, c'est surtout si on fait une pelouse au printemps, c'est que là, vous couvrez entièrement le sol et vous n'avez pas de germination d'herbes indésirables. Alors que, en ce moment, moi, ce que je conseillerais, c'est de préparer le sol, d'éliminer systématiquement les herbes dont on n'a pas envie jusqu'au mois d'avril. Et au mois d'avril, à ce moment-là, vous faites votre semis. Parce qu'il faut bien préparer le sol. C'est le plus important.
Patrick, on termine avec vos coups de cœur de cette semaine.
Alors, il y a une initiative vraiment très intéressante par les jardineries botaniques qui lance la première filière de recyclage et de valorisation des pots en plastique. Alors, uniquement ceux qui sont en polypropylène, mais ça, c'est quelque chose de très, très bien. On sait qu'aujourd'hui, on déborde avec les déchets plastiques. Alors, moi, je conseille généralement de mettre les pots, vous savez, que vous achetez les petites plantes, les conteneurs, tout ça, dans la poubelle jaune, mais là, ce qui est intéressant, c'est que ça va rester dans la filière. Donc, si vous rapportez les pots que vous avez utilisés dans les jardineries botaniques, eh bien, ils vont les recycler et les donner sous forme de granulés à une entreprise de plasturgie qui s'appelle Poétique et qui refabriquera des contenants qui seront utilisables. Donc ça, c'est quand même ce qui s'appelle l'économie circulaire et c'est quand même une très, très, très bonne idée. Il faut les féliciter. Et puis pour terminer, mon coup de cœur, j'ai un livre que je voulais vous présenter déjà depuis plusieurs semaines qui s'appelle « Ce que les plantes ont à nous dire » de François Couplan. François Couplan, c'est un ethnobotaniste. C'est un type assez sympa et un peu allumé, je dirais. Je l'aime bien, on se connaît bien. C'est un type, il part dans la nature et il mange tout ce qu'il trouve. Il est capable de se nourrir complètement en autarcie.
Et du coup, il peut faire Koh-Lanta, quoi, s'il veut.
Oui, mais du coup, il a un contact avec le monde végétal que peu de personnes ont. Ouais. Et dans ce livre-là, eh bien, il vous raconte tout ce qui est transmis par les végétaux. Il y a des choses personnelles, il y a des choses un peu plus scientifiques. C'est vraiment très, très, très bien. Ça coûte 22 euros. C'est chez Les Liens qui Libèrent, donc l'éditeur qui s'appelle Les Liens qui Libèrent, ce que les plantes ont à nous dire de Monsieur François Couplan.
Patrick, on sera là samedi prochain, 6h-7h, pour votre rendez-vous jardin.
Voilà,
à la semaine prochaine, Patrick.
Un plaisir, les jardinières, je vous embrasse, ma petite jardinière, ma petite perle, comme d'habitude, et monsieur Christian Pesset qui est en face de moi.
Eh bien,
bonjour.
Bonjour, mon cher Miu Miu.
On va parler de thermostat tout à l'heure. Et puis aussi de chauffage. Bah, le chauffage au bois. Alors, est-ce qu'on a droit à des aides si on installe son chauffage au bois?
On est en plein MaPrimeRénov', tout ça se met à peu près en place. Je crois qu'il y a un petit peu de retard déjà dans les tuyaux.
Alors, on va parler de tuyaux aussi, alors visiblement. Donc de plomberie.
Ouais, non, de tuyaux de poêle.
Ah oui. La météo, les infos, on est de retour, à tout de suite.